Avant de reprendre l'exposé, j'ai oublié une chose dans la question. Je me suis laissé prendre par Mathieu et puis j'ai oublié de parler de Jacques que je voulais dire en rapport avec le fait de confesser. Hein. Confesser à Dieu, confesser à l'offensé, mais dans Jacques quand même, au chapitre 5, il est dit que confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre. Il peut y arriver des situations, il est parlé aussi dans une situation de maladie, mais enfin des situations où peut-être l'un ou l'autre a de la peine à pouvoir s'exprimer. Et alors, il peut trouver auprès de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas forcément quelqu'un d'ordonné, hein, eh bien, il peut trouver auprès d'un frère, d'une sœur, quelqu'un en qui il peut se confier et ensemble, ici il est parlé, c'est vrai, des anciens en principe, mais quelqu'un en qui il peut se confier et ensemble, eh bien, ils peuvent prier et la personne peut même prier pour lui. Prier l'un pour l'autre, confesser l'un à l'autre pour prier l'un pour l'autre. Le chapitre 7 qui suit nous dit qu'en Christ, nous sommes libérés de la loi. Ce chapitre, nous allons l'examiner sous quatre aspects. D'abord, l'autorité de la loi, ensuite, le ministère de la loi, troisièmement, l'impuissance de la loi, et enfin, la délivrance en Jésus-Christ, notre Seigneur. Libéré de la loi. Mais pourquoi libéré de la loi? Ce programme de libération, de consécration, de sanctification et de plénitude de vie que nous avons vu est le résultat de mon identification avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. J'ai à le savoir, le croire et choisir de le vivre. Mais n'y a-t-il pas un dilemme dans la mise en œuvre? Vivre cet engagement, c'est le vivre en référence avec la pensée de Dieu, et celle-ci n'est-elle pas consignée dans la loi? Ne s'agit-il pas d'ailleurs ainsi de fournir des efforts pour que c'est réaliser ce que cette loi exige de moi? Est-ce que mes mérites peuvent être là pour assumer ce programme de vie chrétienne? La parole va nous prendre de court et placer ces questions dans la perspective du plan de grâce de Dieu qui a pourvu parce que Christ est en moi et qui nous a donné le Saint-Esprit. C'est ce que nous verrons au chapitre 8. Alors, dans le chapitre 7, il va nous parler de cette loi, mais il va nous parler de la loi de différentes manières. Trois aspects sont mentionnés, la loi de Dieu, la législation en vigueur, et puis aussi la loi en tant que principe, comme dans la nature ou dans la science. Nous commençons par l'autorité de la loi et nous allons lire les versets 1 à 3. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie, libérée de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. La mort marque un changement d'état. Le verset 1 nous dit, celui qui est mort, il n'est plus sous l'autorité de la loi. Les versets 2 et 3 nous disent qu'en cas de décès du conjoint, le conjoint survivant est délié du lien conjugal par la loi. La mort est intervenue. Le fait que on parle du lien conjugal me fait juste rappeler, en aparté si vous voulez, que le principe biblique de la validité du mariage, c'est selon la loi en vigueur. Dans la plupart des pays, l'état civil, selon le plan de Dieu dans Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme, la monogamie. Et puis, dans Exode 20, verset 14, il nous est dit que toute relation avant ou en dehors du mariage est proscrite et est appelée adultère dans la loi. On a vu la mort qui marque un changement. Nous allons continuer maintenant sous ce signe de l'autorité de la loi. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Changement de régime. Nous sommes libérés de la loi. De même que nous sommes morts au péché, nous apprenons ici que nous sommes morts à la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous avons changé de régime. Nous sommes libérés de la loi. Et cette mise à mort à la loi, elle a eu lieu au travers du corps de Christ auquel nous avons été identifiés. Lui, le seul à avoir accompli la loi, Matthieu 5, verset 17, il en a subi la condamnation à notre place et nous sommes justifiés en lui et par lui. Ainsi, Colossiens 2, verset 14 nous dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a cloué à la croix et a dépouillé les autorités, triomphant d'elles sur la croix. Même l'accusateur est dépourvu de cet acte d'accusation. Cela nous amène à une nouvelle étape, une nouvelle perspective, une nouvelle appartenance. L'appartenance au ressuscité. Lui qui a manifesté la victoire de la vie sur la mort et qui nous place dans une vie de résurrection pour que nous portions du fruit par lui et pour Dieu. Demeurez en moi et moi en vous, nous dit Jean 15, verset 5, et vous porterez du fruit. Changement de régime. Les versets qui suivent nous disent que nous étions dans la chair. Mais qu'est-ce que la chair? Eh bien, la chair, selon 1 Corinthiens 3:3, agit à la manière de l'homme. Elle s'élève contre Dieu et ne se soumet pas à la loi. Elle correspond à notre ancienne vie sans Dieu, dans le vieil homme. Nous vivions alors en réaction à la loi. Mais il s'agit du passé. Nous sommes morts et déliés de la loi à laquelle nous étions redevables et contre laquelle nous étions en réaction. Mais maintenant, nous sommes sous le régime nouveau de l'esprit. Et c'est par lui que nous pouvons servir d'une manière nouvelle. Le service est le résultat de la vie de l'esprit en nous. Pas une recherche de mérite, ni une contrainte, ni un légalisme. Notre vie et notre service ne sont plus sous le régime périmé de la lettre, mais il doit s'agir d'un débordement de vie. Là, si nous sommes morts à la loi, à quoi bon la loi? Nous continuons notre lecture dans Romains 7, des versets 7 à 13. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Pourquoi la loi? Eh bien, Paul nous en donne quelques aspects du ministère de cette loi qui, d'abord, révèle le péché, ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, 1 Jean 2, 16. Eh bien, est manifesté et révélé comme étant péché par la loi. Mais non seulement la loi révèle et montre le péché, mais la loi réveille le péché. Si, à titre d'exemple, vous avez des palissades autour d'un chantier, peut-être êtes-vous curieux de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et voilà que à un endroit, il y a un trou. Et au-dessus du trou, il est marqué « Interdiction de regarder ». Qu'est-ce qui va se passer? Les passants vont jeter un coup d'œil. Est-ce que ce n'est pas la meilleure manière d'attirer l'attention? Ce qui est interdit souvent attire l'attention. Un enfant auquel vous dites, par rapport à une cuisinière en tout cas, l'ancien genre, ne touche pas. Au moment où vous avez tourné le dos, vous entendez « aïe » parce qu'il a essayé. Eh bien, quand il est dit 120 à l'heure et qu'on se sent en liberté, les chauffeurs savent de quoi je parle. La loi Mais la loi mène à la mort. Parce que la séduction peut m'attirer loin. L'attrait de l'interdit. On pense aux addictions, aux tricheries, aux idoles, idoles modernes, mammon compris. Et elles nous font manquer le but. Combien de drames, parce que des enfants se sont laissés prendre par l'addiction et en sont morts. Alors, c'est une réalité. Elle mène à la mort. Et même si je suis chrétien et que je me laisse prendre par une chose ou par une autre, eh bien, je manque le but. Et cela coupe ma communion avec le Seigneur. Et puis, la loi, elle rappelle la pensée de Dieu, celle du Dieu saint. La loi est bonne. Le commandement est saint, juste et bon. Enfin, la loi, elle démontre la réalité du péché. Elle en montre même la virulence, l'extrême virulence qui en est la conséquence. Alors, ministère de la loi, duquel nous avons à apprendre. Après avoir parlé de ce ministère, nous voulons voir maintenant l'impuissance de la loi. D'abord, ce qui nous est dit au verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. En fait, ce n'est pas la loi et son ministère qui sont le problème. Le problème, c'est moi. C'est moi qui agis d'une manière humaine. Je suis charnel. Et je me suis permis de faire un petit tableau qui nous montre comment, dans un sens, la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et je peux être dans la chair ou selon la chair, dans l'esprit ou selon l'esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans le passé, comme on l'a vu tout à l'heure, j'étais dans la chair et j'étais loin de Dieu. Mais j'ai reçu l'esprit. Et tout croyant est dans l'esprit. Malheureusement, je peux marcher par la chair ou par l'esprit, aujourd'hui encore. Et si je marche selon l'esprit, eh bien, il s'agit d'une croyance spirituelle, et on en parlera au chapitre 8. Mais si je vis selon la chair, il s'agit d'un croyant charnel. Et c'est un peu la situation qu'on trouve décrite dans nos versets 14 à 24. Nous lisons maintenant au verset 15, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ces versets mettent à jour le dilemme dans lequel je peux me trouver. Un constat d'abord. est une question préalable. Un tel dilemme est-il celui que peut connaître un croyant, ou bien Paul parle-t-il d'une situation ancienne d'un incroyant? Certains ont estimé que c'était tellement dramatique qu'il ne s'agissait pas d'un croyant. Et pourtant, si vous lisez et relisez le texte, il n'est pas présenté au passé, il est au présent. Il nous est même parlé du désir de l'homme intérieur, qui est celui d'une intelligence renouvelée, qui désire la loi de Dieu. Donc, et il semble bien qu'il s'agit de possibilités de vie, de la vie qu'un croyant peut, en ayant, en s'étant égaré peut-être, eh bien, peut connaître. Et notre propre expérience, en tout cas la mienne, nous fait réaliser que si nous ne veillons pas, eh bien, nous vivons un tel débat. Alors, le texte nous dit, je ne comprends pas. Je veux le bien, mais je pratique le mal. Et voilà que Paul nous étonne. Il dit, ce n'est plus moi, mais le péché en moi. On a parlé du vieil homme, il est crucifié. On a parlé du corps du péché, il est délié. Mais ici, il nous parle du péché qui habite en moi ou avec moi. Et en fait, c'est le principe du péché et la capacité de pécher. Oui, je suis encore dans ce monde et je suis dans le corps et dans le corps, je peux encore pécher. Alors, ce n'est plus moi parce que moi, je suis en Christ, mais c'est le péché en moi. Je reconnais donc que ma chair est faible, mais j'admets et je reconnais que la loi est bonne. Nous continuons au verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Deux lois. En fait, deux principes. La loi de Dieu, la loi du péché. Et Paul nous décrit un blocage. Ma volonté, je voudrais, mais mon incapacité. Et il y a une lutte. Pourtant, selon mon être intérieur, je prends plaisir dans la loi de Dieu, mais la loi du péché me retient prisonnier. Alors, on peut rappeler ce verset du psaume 119, verset 11. Et que je vous relis. J'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pèche pas contre toi. Prendre son plaisir dans la loi de Dieu pour ne pas pécher. Et puis, au psaume 1, il nous est dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi, il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Alors, que nous puissions en tirer la leçon et désirer être fortifiés en puissance par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite par la foi dans nos cœurs. Le résultat de ce dilemme, eh bien, c'est un cri de détresse. Au verset 24, nous lisons « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est vrai que le vieil homme, la contrainte du péché, a été crucifié. Cependant, le corps du péché, la possibilité de péché, est délié. Mais parce que le péché, cette capacité de péché, habite en moi, mon corps se laisse entraîner par la chair qui amorce le péché, que je dois tenir pour morte, et celle-ci fait écho au monde qui est la tentation du péché. Misérable homme que je suis, qui me délivrera? Immédiatement, la parole répond. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Si on lit un verset qui reprend presque les mêmes termes. Dans 1 Corinthiens 15, 57, il nous est dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Face à cet imbroglio, face à ce dilemme, face à ce débat, face à ce combat, la victoire est en Jésus-Christ. Le seul qui peut vivre la vie chrétienne, c'est le Seigneur Jésus. On a pu poser la question, est-ce que la vie chrétienne est facile? Et la réponse générale, non, elle est difficile. Permettez-moi la réponse, la vie chrétienne est impossible. Et c'est pourquoi le seul qui peut la vivre, c'est Christ. Et il veut la vivre en toi, il veut la vivre en moi. Alors, celui qui est en nous, nous dit 1 Jean 4, verset 4, est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais je dois reconnaître sa seigneurie. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. La victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. C'est vrai, je suis esclave, soit de la loi de Dieu, par mon intelligence renouvelée, et qui reconnaît cette seigneurie de Christ et cette victoire de Christ, soit de la loi du péché, qui me rend prisonnier par la chair, et par mes mérites, et qui m'éloigne du Seigneur. Dans le chapitre 8, au verset 2, nous lirons non seulement grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, il nous est dit « La loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Alors, la délivrance. Le Saint-Esprit veut nous la communiquer. Elle est en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous voulons revenir à cette stratégie d'appropriation de cette délivrance. Nous devons savoir que je suis mort au péché, à la loi, au monde. Croire que je suis vivant à Dieu, en Jésus-Christ, et alors choisir de vivre Christ. Il a vaincu. La victoire est en lui. Et vous pourrez lire les versets que j'ai cités. Le Saint-Esprit, qui va me communiquer la puissance indispensable pour une vie sainte, libre et victorieuse en Jésus-Christ.
Merci Pierre-Étienne pour cet exposé du chapitre 7. Je propose de traiter quelques questions. Certaines reviennent un peu sur la discussion qu'on a pu avoir précédemment. Et je pense que c'est intéressant d'y revenir, notamment le fameux 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Une question, peut-on dire que pour les péchés actuels, après la conversion, nous devons confesser un péché et non pas en demander pardon à Dieu? Le croyant est en effet pardonné à la croix de Christ sur la base de son sang versé.
Il me semble que c'est ce qu'on a appris. Il me semble que ça correspond à l'enseignement biblique. On confesse, on homologue. Mais le pardon est acquis.
Et si je peux ajouter un élément, il me semble qu'effectivement, on voit en tout cas que l'épître de Jean s'adresse à des croyants, puisque de manière régulière, ils sont traités de petits-enfants, d'enfants, donc peut-être des croyants encore un peu immatures, mais des croyants. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi un point d'explication. De toujours ce 1 Jean 1,9 qui a fait couler beaucoup d'encre ou taper beaucoup de claviers. 1 Jean 1, verset 9 ne dit pas à qui confesser. Est-ce qu'on doit confesser à Jésus-Christ, à Dieu, au Père? Enfin voilà, il se pose, un de nos auditeurs se pose la question.
Alors, comment est libellé 1 Jean 1, 9? Il nous est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Celui qui va pardonner, c'est celui dont il est dit il. Et qui est ce il? N'est-ce pas Dieu? Parce que si on continue, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle et juste envers qui? Est-ce qu'il est fidèle et juste envers moi? En tout cas pas. Je n'ai aucune prétention et aucun droit. Il est fidèle envers qui? Il est fidèle envers celui qui en a porté la condamnation. Parce que si je n'étais pas pardonné, ça voudrait dire que l'œuvre de la croix n'a pas été utile. Excusez-moi la manière de dire les choses, hein. Mais parce que Christ a déjà porté ce péché sur la croix, eh bien maintenant, Dieu est fidèle et juste envers Christ qui a porté ce poids sur la croix, ce châtiment sur la croix. Donc, si c'est lui qui me pardonne, c'est à lui que j'adresse mon homologation.
Merci pour cette réponse. Une autre question intéressante, si nous sommes esclaves de la justice, est-ce que cela veut dire qu'on ne pêche plus?
Esclave de la justice, ben, c'est vrai que c'est une expression qui pourrait nous faire nous poser des questions. Est-ce qu'on est vraiment alors tout simplement des justes qui avons une vie de justice? Mais tout le passage nous l'a montré que c'est une question de choix et de choix à renouveler en quelque sorte, hein, de se mettre à la disposition du Seigneur. Et le choix que j'ai à le faire pratiquement constamment. Et c'est vrai que quand je vis en Christ, eh bien, je pense que La vie de Christ est manifestée, donc la justice est manifestée. Mais si nous sommes esclaves de la justice, eh bien, c'est notre responsabilité de nous mettre à la disposition de Christ, qui nous a justifiés, mais qui peut, par sa vie, nous donner de marcher d'une manière juste aussi devant Dieu et devant les hommes. Le problème, c'est que, comme on l'a vu, je suis encore dans le corps, et ce corps est dans le monde, et malheureusement, il y a tout ce qui nous entoure, et si nos pensées ne sont pas concentrées sur le Seigneur, si notre vie n'est pas attachée à lui et à sa parole, je crains que nous puissions tomber encore. Et malheureusement, je le confesse.
On va terminer avec une question. C'est vrai que la fin de ce chapitre 7 a fait couler beaucoup d'encre pour savoir si c'était effectivement, comme tu as posé la question, l'expérience de Paul avant sa conversion, ou respectivement son expérience après sa conversion. Tu as mentionné que c'était après sa conversion, selon toi, notamment à cause du temps utilisé. Et puis là, on a un auditeur qui nous dit, l'auteur de l'épître, il utilise le pronom je tout au long de cette partie-là. Il n'arrive pas à faire le bien qu'il veut, mais il fait le mal qu'il ne veut pas. Alors, se pose la question, est-ce que c'est lui-même qui a fait ces expériences ou bien c'est des révélations qu'il a eues?
Alors, il ne le dit pas. Mais il décrit l'expérience. Peut-être encore une chose à dire, il dit, ce n'est pas moi, mais c'est le péché en moi. Donc, ce qui montrerait encore davantage que c'est bien un croyant qui est confronté à cette expérience dramatique. Mais je crois qu'il y a un danger. Et c'est pour ça que il faudrait pouvoir continuer directement avec le chapitre 8. Hein. La loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Eh bien, il faut réaliser que s'il y a ce débat et on peut se laisser surprendre, eh bien, il y a la victoire. Et la victoire est en Christ.
Merci pour cette conclusion, cette dernière question.